Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Thibaut. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Salut Priscilla, merci beaucoup de m'avoir invité.
Alors, tu es freelance et tu accompagnes les dirigeants et les équipes B2B à prendre la parole sur LinkedIn pour attirer des clients.
Ouais, c'est ça. Donc, ce que je fais, j'aide donc les dirigeants de boîtes B2B, principalement de start-up ou de boîtes qui font moins de 50 personnes, à prendre la parole sur LinkedIn, donc à trouver leur ligne éditoriale, à faire des posts percutants, à trouver des idées aussi pour on va dire résoudre ou accomplir leur objectif. Donc c'est un objectif souvent d'acquisition, donc c'est faire de la notoriété, faire de l'éducatif sur leur marché. Mais ça peut être aussi de la crédibilité s'ils veulent étendre leur réseau, montrer qu'ils sont forts sur certains sujets, donc prendre des paroles, faire des prises de parole. Et il y en a, ils veulent juste se faire un kiff, ils veulent juste avoir plein de likes, s'amuser, rencontrer des gens, ça dépend.
D'accord. Donc pourquoi tu t'es axé que sur les startups de moins de 50 personnes?
Mais c'est une bonne question. En fait, moi, dans mon parcours professionnel, en fait, j'ai jamais travaillé dans des boîtes de plus de 100 personnes. Si tu me disais, par exemple, tu vois, postuler chez L'Oréal ou chez Accor ou une boîte comme ça, je sais même pas comment on fait. Je sais même pas où est-ce qu'on trouve les fiches de poste. Je sais même pas qui contacter. En fait, je suis devenu tellement punk, tu vois, sur le côté start-up, freelance et faire le foutre le bordel. Même si je voulais être au summum de ma corpo attitude, j'arriverais pas, je pense. Et du coup, je sais comment ça fonctionne en startup, je sais comment on achète comment les gens achètent en startup, je sais comment tu attires des talents en startup. Enfin, voilà, j'ai baigné dans ce milieu-là, je connais l'état d'esprit des gens, ce qui me permet en fait d'avoir une grande proximité avec ces dirigeants-là. Alors qu'en fait, j'ai une méconnaissance du monde corporate hyper large. Je sais pas exactement, tu vois, comment tu vends des logiciels cloud à des énormes entreprises, etc., etc. Donc, pour moi, c'était une évidence, en fait, de parler à des dirigeants plutôt de start-up. Et naturellement, j'ai plutôt des PME, des start-up. Mais il se trouve que, les gens qui viennent me voir, c'est souvent des start-up de moins de 100 personnes. Je pense que c'est dans l'attitude que je peux avoir sur aussi mon parcours, etc. Et souvent des plus grands groupes, tu vois, de TI ou même, je ne vais pas dire jusqu'à des grands groupes, mais leurs prises de parole, elles sont très surveillées. Souvent, ils ont des media trainers, ils ont des agences, ils ont des gens en interne qui les aident, etc. C'est un autre level, en fait.
Ouais, ils ont des chargés de communication qui parlent à leur place.
Ouais.
C'est très corporate, c'est vrai que l'univers startup, ce qui est bien, c'est que c'est plus clivant, je trouve. T'as le droit de dire ce que tu veux et ça passe quand t'es CEO. D'une startup, pas quand t'es PDG de je sais pas quoi. De toute façon, même le PDG de L'Oréal, est-ce qu'il est vraiment sur LinkedIn? Je sais pas, je le suis pas.
Non, ils sont pas beaucoup sur LinkedIn, les PDG du CAC 40. Quand t'es PDG du CAC 40, t'as beaucoup de... Déjà, souvent, t'as des membres du comité stratégique, ce qui fait qu'en fait, tu peux pas dire n'importe quoi, parce que vu que t'es en bourse, si tu prends tes prises de parole peuvent avoir un impact positif ou négatif sur le cours. Tu peux avoir des prises de parole par exemple, Elon Musk aux États-Unis, qui a eu des problèmes avec la SEC, l'autorité de régulation. Et parce qu'il avait dit que le cours de l'action était beaucoup trop haut à un moment, il a dit qu'il était beaucoup trop bas. Et du coup, en fait, il fait presque ce qu'on appelle du délit d'initié. Donc, en fait, ces mecs sur LinkedIn ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il y en a quelques-uns qui le font. Alors, c'est pas CAC 40, mais c'est un grand groupe. T'as Michel-Édouard Leclerc, qui est le patron préféré des Français, qui le fait. T'as Patrick Pouyanné du CAC 40. Il y en a qui le font quand même, mais c'est vrai qu'ils savent pas forcément le faire aussi, parce que cette expertise de rédiger des discours impactants pour les gens, un peu percutants, ils comprennent pas forcément l'intérêt, et il faut aussi trouver des gens qui savent le faire, et c'est pas facile.
Et justement, en parlant de ça, le copywriting, c'est donc ce que tu fais. J'ai l'impression que ça a popé là ces derniers mois, j'en vois partout. Je sais pas, je me disais au début, ouais, c'est un métier mais tellement incroyable, et j'ai l'impression que tout le monde l'a compris, donc tout le monde veut le faire.
Alors, il y a plusieurs choses là-dessus. Alors, c'est un métier qui est assez ancien en fait. C'est juste que maintenant on appelle ça copywriter parce qu'on a anglicisé tous les noms. Disons que à l'époque ça s'appelait concepteur-rédacteur en français et en américain, enfin aux États-Unis ça s'appelait copywriter ou advertising copywriter. En fait, à l'origine, le copywriter c'est donc l'art des mots et c'est celui qui va imaginer en fait des campagnes de pub. Pour les boîtes. Sauf que, vu que les médias de diffusion se sont modifiés, avant, bah, si tu voulais communiquer, il fallait que tu communiques, tu vois, donc en publicité, c'était soit, tu vois, dans le métro, ou à la télé, donc ce qu'on appelle print. Print, c'est impression, donc ça, c'est ce que tu peux voir, les campagnes dans le métro. À la télé, bah, tout ce qui est, donc, TV. Et pendant longtemps, pardon?
Radio,
Radio,
radio.
ouais, radio, affichage, voilà. Et les marques communiquaient comme ça. Et tout ce qui relevait, en fait, des médias, donc tu vois, de relations presse, de relations institutionnelles et, tu vois, des plateaux télé ou autres, tout ce qui était organique, c'était d'autres personnes qui s'en chargeaient. C'était, bah, des chargés de presse, chargés, comment on appelle ça, RP, relations presse, relations publiques. Et c'était deux métiers un peu différents. Il y en avait un qui était très créatif, agence de pub, et l'autre qui était beaucoup plus bah, corporate. Voilà. Donc en fait, souvent la publicité et les médias, c'était deux mondes un peu séparés. Et il se trouve que grâce à Internet, aux médias sociaux, Instagram, YouTube, LinkedIn, Spotify, on a une sorte de mix. En fait, le monde des médias et le monde de la publicité se sont un peu mis ensemble, ce qui fait qu'aujourd'hui tu peux faire de la pub grâce à du média, ce qu'on appelle les actifs médiatiques. Si t'as 30 000 abonnés sur LinkedIn, bah t'as une portée potentielle à plusieurs millions de vues par an gratuitement. Et c'est la même chose pour les dirigeants. Sauf que du coup, vu que maintenant les médias et les réseaux sociaux et la conception rédaction, donc le copywriting, se sont un peu mêlés. Disons que avant, t'avais des personnes qui bossaient pour la pub et t'avais des gens qui bossaient qui rédigeaient les discours, ce qu'on appelait des ghostwriters. Et aujourd'hui, en fait, les copywriters publicitaires, parfois, ils peuvent aider les dirigeants à publier. Donc ça, c'est moi ce que je fais. Mais le copywriting, c'est très très vaste. Tu vois, avant, le copywriting, c'était donc, comme on a dit, sur les pubs ou en télé ou en print. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, on a besoin aussi de copywriters sur les sites, sur les landing pages. Donc, tu vois, comment faire en sorte que ton site, on clique dessus. Comment, tu vois, si tu fais du Instagram Ads, comment on fait pour que ton Instagram Ads, elle soit bien, etc., etc. Donc, tu as pas mal de domaines du copywriting ou les newsletters, tu vois, par exemple. Et ça peut être aussi copywriting outbound. C'est-à-dire comment on va formuler nos emails pour faire en sorte que les gens qu'on prospecte nous répondent. Et tout ça, en fait, c'est, disons que avant, c'était juste les copywriters, c'était des créatifs. Aujourd'hui, les copywriters, c'est plutôt des créatifs businessmen, c'est des sortes de psychologues, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est le copywriting, si on devait le définir? C'est pas facile et personne n'arrive vraiment à le définir, mais le copywriting, c'est les Américains, ils disent copywriting is sales at scale. Copywriting, c'est ou sales in print. Copywriting, c'est la capacité à générer du clic ou à générer des ventes via les mots. Donc, tu vois, si tu es un bon copywriter en page de vente, ça va être que tu vas avoir des bons taux de conversion sur les gens qui viennent sur ta page de vente et à quel point ils achètent. Si tu es un copywriter en publicité, ça va être, tu vois, à quel point ton affiche, elle est créative, créative et elle va faire en sorte que les gens s'en rappellent ou achètent. Tu vois, en newsletter, ça peut être, bah, si on fait un mail, combien de gens vont cliquer à la fin sur voir plus, etc. Et aussi sur les médias sociaux, qu'on le veuille ou non, le fait de faire déclencher du like ou du commentaire, c'est une forme de copywriting aussi. C'est à quel point tu connectes avec les gens. Donc ça, c'est ça le copywriting. Donc beaucoup de gens veulent du copywriting sans vraiment savoir ce que c'est un copywriter ou autre, parce qu'ils se disent j'ai mon produit ou j'ai ma page de vente et maintenant un copywriter va m'aider à faire des posts LinkedIn, à faire mon site, à faire ma newsletter pour améliorer le taux de clic ou le taux de subscriber ou ce qu'on veut, et tout ça, à la fin, ça a une valeur, ça a un prix. Et donc, un bon copywriter, c'est un copywriter qui coûte moins cher que ce qu'il rapporte, en fait.
Je me trouve que le copywriting, c'est un boulot, mais tellement incroyable. Et un jour, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit, vu que je suis dans la data analyse, tu coûteras plus cher que quelqu'un qui fait des posts sur les réseaux sociaux parce que personne aime les maths et c'est facile d'écrire. Mais moi, j'ai envie de dire, mais pas du tout. En fait, c'est aussi compliqué les maths que d'écrire pour persuader une communauté ou des gens qui adhèrent à tes propos et qui achètent en fait ce que tu fais. Ouais. C'est pour moi, c'est une science aussi d'écrire.
Ouais, mais carrément. En fait, sur ce que tu dis, tu as dit que oui, ce que t'as que la data analyse avait plus de valeur parce que c'était plus rare. Il y a une phrase de Naval Ravikant, qui est un investisseur hyper connu, qui l'a fait dans le livre Le Almanac, où il dit "Do what feels like play to you and work to others." C'est en fait le but, c'est pas forcément d'identifier ses qualités ou autre. Le but, c'est d'identifier ce sur quoi tu peux avoir beaucoup d'impact et sur lequel, quand tu le fais, tu prends du plaisir. Et ce plaisir que tu prends, pour beaucoup de gens, c'est une douleur répétitive. Et si tu arrives à identifier ça et à le monétiser, eh ben pour lui, t'as un avantage concurrentiel énorme. Alors toi, si c'est la data analyse, c'est clair, parce que beaucoup de gens n'aiment pas les maths. Alors la data, les maths, c'est... Enfin, c'est pas mon domaine, donc je vais pas insulter la data en disant que c'est des maths, mais les gens généralement n'aiment pas les chiffres, beaucoup de gens n'aiment pas non plus ou ont du mal avec les capacités analytiques. C'est souvent, quand on est analytique, on se rend pas forcément compte que c'est une qualité. On pense souvent que c'est un trait de caractère, quoi. Mais tu vois, si t'arrives à analyser de la data, il y a des gens, ils sont incapables d'analyser des choses parce que ils ont pas cet esprit-là. C'est pas être intelligent ou pas être intelligent, c'est il y a des gens qui sont meilleurs pour je sais pas, faire de la musique, peu importe. Mais il se trouve que même s'il y a pas de hiérarchie de ces qualités, bah toi, en data analyse, c'est clair que c'est probablement une qualité ou un trait de curiosité pour toi qui est assez rare. Et donc ça peut être, si tu trouves les bons clients, etc., très valorisé. Pour ce qui est du copywriting, le truc, c'est que la data analyse, c'est assez difficile de s'improviser data analyst, tu vois. Ou c'est très difficile de s'improviser architecte, ingénieur, tu vois, ou médecin, t'as des diplômes, t'as des choses comme ça. En fait, t'as beaucoup de garde-fous qui te permettent d'identifier si la personne, elle est qualifiée, ne serait-ce que les diplômes. Tu vois, moi, j'ai des diplômes un peu bizarres. J'ai fait Sciences Po. Mais mon master, j'arriverai pas vraiment à expliquer aujourd'hui à quoi il me sert. Ou tu vois, c'est pas vraiment, ça m'amène pas street cred, quoi. Après, j'ai fait une business school, j'ai fait l'ESCP, mais ça me donne pas une figure d'autorité dans ce que je fais. Je peux pas dire oui, je sais parce que j'ai fait ça, tu vois. Alors qu'un ingénieur des ponts et chaussées, si on lui dit comment tu sais que ce pont, il va tenir, il va dire je suis ingénieur, tu vois. Et le truc, c'est que le copywriting, t'as pas vraiment de... Alors, t'as des écoles de pub, mais en fait, la vérité, c'est que les écoles de pub, elles peuvent t'amener de la culture publicitaire, elles peuvent t'ouvrir l'esprit, mais elles peuvent pas t'amener forcément à être copywriter. Donc, du coup, ils ont pas forcément plus de crédibilité quand ils ont fait une école de pub. Ce qui fait qu'en fait, copywriting, c'est plutôt un trait naturel d'esprit qui peut pas être, tu peux pas être validé. T'as pas un test de QI de copywriting, tu vois. La seule chose que tu peux faire, c'est montrer des chiffres ou montrer ton expertise. Et t'as beaucoup de gens qui s'improvisent copywriter, et ils ont raison. Parce que y a pas de moyen de savoir si t'es un bon copywriter. Et puis, un jour, tu peux faire une bonne page de vente. Et le lendemain, tu peux faire une page de vente qui convertit pas, tu vois. C'est assez difficile. En fait, la seule vérité du copywriting, c'est à quel point, à la fin, tu vends ou tu vends, quoi. Voilà. Mais même sur LinkedIn, tu vois, le copywriting, c'est une chose. Mais le copywriting peut pas sauver un mauvais produit. Le copywriting peut pas sauver une mauvaise stratégie ou un mauvais product market fit, quoi. C'est une, tu vois, il y a une phrase de dans le bouquin de Cialdini là, Influence et manipulation, qui dit bah tu peux faire tout ce que tu veux, mais si t'es allé dans le travers, t'es mal barré. En gros, enfin c'est un truc, c'est un peu intolérable ce que je vais dire, mais par exemple sur LinkedIn, si tu fais du bon copywriting, deux personnes peuvent écrire la même chose, mais s'il y en a un qui présente bien et qui, je sais pas, il a fait des bons diplômes, il a un gros réseau, etc., et que l'autre, c'est pas la même chose. Les gens, c'est pas des, ils sont pas égalitaires dans le rapport au like ou à la vente ou des choses comme ça. Ils vont plutôt, regarder, les gens qui présentent mieux, les gens qui ont fait des diplômes, etc., et les gens, surtout qui connaissent. Donc le copywriting, ça peut pas tout sauver, quoi. Après, il y a l'image, il y a le marketing, il y a comment tu te présentes, est-ce que tu es une marque, la crédibilité. Donc c'est ouais, sur il y a une science de ça, mais le copywriting peut pas sauver un mauvais produit ou etc. Alors que tu vois, si tu es ingénieur, est-ce que ton pont il tient ou est-ce qu'il tient pas, quoi. Enfin, je caricature un peu.
Oui. Mais le problème c'est ça en fait, c'est choisir le bon copywriter, alors que c'est dur de présenter en fait ton job. Je trouve que c'est dur de choisir en fait. Quel sera le meilleur copywriter que je vais prendre entre quatre personnes, et c'est compliqué.
Ouais, c'est pas facile de choisir un copywriter. Il y a aussi, alors il y a plusieurs choses. La première chose, c'est il y a copywriting sectoriel. Dans le sens où, tu vois, moi, je bosse, avec des boîtes dans la cybersécurité, dans la crypto, dans le B2B. Si tu prends un copywriter qui a l'habitude de bosser pour des Fanta et Nike et qui fait que du B2C et des trucs hyper créatifs pour la télé, il a aucune chance, tu vois, face à moi, parce qu'il va même pas comprendre, il aura même pas l'expertise métier. Donc, il va pas comprendre, tu vois, les besoins de l'utilisateur finaux, etc., etc. Alors, mais de la même façon, moi, je suis pas forcé, copywriting B2C, j'essaie d'éviter, parce que c'est pas la même chose de convaincre une boîte d'acheter du software ou une solution cloud en comprenant tous les tenants et les aboutissants à l'intérieur de ces organisations, et c'est pas la même chose que de vendre une Ferrari ou à un mec qui va faire un achat hyper émotionnel ou impulsif, ou de vendre du marketing de pour vendre des sodas, par exemple. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste que c'est une compréhension de l'utilisateur final. Et sur ça, donc, il y a un peu de copywriting, on va dire, sectoriel. Est-ce que tu fais du B2C, du B2B? Probablement, aussi, si t'as déjà bossé sur tel secteur. Donc, il y a une sorte d'expertise métier qui est intéressante. Mais t'as des qualités naturelles, que si tu les as pas, ça sert à rien, quoi. Si t'es pas créatif, si t'es pas à l'écoute, si t'es pas observateur, si t'es pas un peu non conventionnel, ça va être très difficile de faire du copywriting. Surtout que, à l'époque, le bruit, il était dans les journaux, tu vois. C'était des encarts dans les pages, des trucs dans le métro. Aujourd'hui, c'est le bruit sur Internet, et le plus difficile, c'est de se démarquer. Et ça fait que pour faire un bon copywriting, il y a trois choses à retenir. La première, c'est first line, second line. Il faut que la personne, elle lise une première ligne, qu'il l'amène à lire la deuxième, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et à la fin, s'il est allé jusqu'au bout, ça peut être un potentiel acheteur, un potentiel subscriber pour ta newsletter, ça peut être un potentiel abonné, j'en sais rien. Donc ça, c'est right line, first line. La deuxième, c'est write like you talk. Dans un monde de plus en plus aseptisé, où les gens essaient de parler à tout le monde, plus tu vas être au milieu et plus tu vas avoir des difficultés à te démarquer. Donc en fait, on est tous vraiment différents, on est tous uniques, et c'est étrange, mais le fait de d'écrire comme on parle et d'avoir sa personnalité au dernier degré en fait de possibilités à l'échelle, en fait, d'être vraiment authentique, enfin être soi-même à la dernière au dernier degré d'échelle, en utilisant les gros mots qu'on aurait utilisés, en utilisant les expressions bizarres qu'on aurait dites, en faisant la blague ou la non blague ou en étant sérieux, permet en fait de se démarquer juste en étant soi, en fait. Donc cette authenticité là, elle est importante. Et la troisième chose, c'est qu'il faut de la clarté d'esprit. clarté du propos, clarté du message, tu vois, une idée, un poste, si il faut que chaque bouton soit intéressant, il faut que si tu demandes un appel à l'action, il faut que le truc soit clair. Les gens, ils sont fatigués de leur journée, ils sont fatigués de tout. Donc, ils ont besoin d'un truc, ce que les Américains appellent « effortlessly easy ». Il faut que ça soit « effortlessly easy » à lire, à comprendre et à agir, quoi. Donc, trois choses pour le copywriting. Donc, c'est un « first line », »,« second line », deux « write like you talk », et trois « effortlessly easy ». C'est trois principes américains du copywriting qui sont vraiment importants à retenir.
Et toi, là-dessus, sur le copywriting, toutes les connaissances, etc., t'as fait une formation à côté ou tu t'es lancé, t'as fait une formation à côté, je sais pas. Comment t'as procédé? Ouais. Parce que Sciences Po, freelance dans le copywriting, je me dis, il y a quand même un fossé.
Ouais, bon, après, Sciences Po, ça peut t'amener à faire tout, n'importe quoi. Hein. Sciences Po, t'as des gens, ils travaillent en finance, t'en as d'autres, ils bossent dans des ONG pour sauver la planète, t'en as, ils sont entrepreneurs, enfin, il y a de tout, n'importe quoi. Il y a pas beaucoup d'entrepreneurs quand même qui sortent de Sciences Po, même s'il y en a de plus en plus. Et sur le copywriting, non, j'ai pas fait de formation en fait. Moi, je suis assez auto. Enfin, c'est marrant, j'allais dire, je suis autodidacte alors que j'ai fait deux grandes écoles. Mais je. Aujourd'hui, c'est. Disons que en fait, les grandes écoles, ça t'aide pas vraiment à t'apporter du savoir parce que tout est quasiment gratuit et dispo sur Internet aujourd'hui. Les écoles, tu les fais principalement pour rencontrer des gens et pour vivre des aventures et pour kiffer le process de tes années étudiantes. Enfin, pour moi, c'est ça. Et puis après, voilà, aussi, c'est pour être trempé au quotidien dans l'ambition d'être amené à rencontrer des gens qui peuvent te faire changer de perspective, d'état d'esprit. Enfin, pour moi, c'est vraiment... j'allais dire, pour moi, c'est vraiment l'humain l'important, mais c'est tellement bullshit, cette phrase. Mais
on l'important, est d'accord, c'est...
Hein,
ceux-là qui utilisent ça, pour moi, c'est les plus grands mythos. Les boîtes, j'étais le plus déçu, ceux-là qui disaient l'humain est au centre de notre com.
Oui. Non, mais, ouais, alors je sais pas comment le dire sans bullshit, mais je dirais qu'en fait, le plus important, c'est l'apprentissage que tu fais des autres, on va dire. J'ai beaucoup plus appris... Des gens qui étaient là et tu vois et de leur discuter au restaurant, d'aller prendre une bière après les cours, des trucs comme ça, que à l'intérieur des cours en fait. C'est dans tous les interlignes et les liens que tu crées qui sont les plus forts. Et d'ailleurs, bah aujourd'hui, c'est des gens avec qui tu grandis et tu t'entraides, t'as confiance en elles et vous retrouvez quoi. Donc ça, pour moi, c'est le plus important. Donc j'ai pas fait de formation copywriting, il y en a. Il y a probablement des choses à apprendre. Je connais pas trop l'état des formations en copywriting. Mais disons que moi, je viens du milieu de la publicité déjà. Donc, j'étais baigné là-dedans. J'ai beaucoup lu. Je lis, des heures et des heures chaque jour. Et aussi, j'écris. Donc, en fait, tu vois, David Perel, il disait if you underthink, read. If you overthink, write. Donc en fait, si t'as l'impression qu'il te manque des idées, que t'as l'impression qu'il te manque un peu de choses à raconter, etc. Ben là, il faut voyager, il faut lire, tu vois, rencontrer d'autres personnes, se sortir, sortir un peu la tête et essayer de demander aux autres que quoi faire, quoi lire, et vraiment voilà réfléchir là-dessus. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont pas forcément bons en copywriting parce que ils overthink tout. Du coup, ils vont vouloir écrire trois idées en même temps, ils vont vouloir que leur truc soit toujours surparfait, etc. Et à ce moment-là, en fait, écrire permet la clarté d'esprit. En fait, la douleur que les gens ressentent quand ils écrivent quelque chose, c'est pas la douleur parce qu'ils arrivent pas à écrire ou à trouver les bons mots, c'est souvent la douleur parce qu'ils arrivent pas à clarifier la pensée. Et le fait d'écrire leur montre, c'est la preuve vivante que leur pensée n'était pas claire de base. Donc ça, c'est je crois que c'est Blaise Pascal qui disait « Ce qui se conçoit facilement s'énonce clairement. » Je sais pas la phrase exacte. Donc en fait, le meilleur truc que tu peux faire en copywriting, c'est lire et écrire, quoi. Enfin, lire beaucoup de choses de très haute qualité et écrire quotidiennement pour progresser. Ensuite, tu peux avoir des petits tips, ceux que j'ai donnés, mais moi, c'est surtout que j'ai appris dans les bouquins. Hein. Mais il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein. Tu lis des bouquins... des années 50, genre Ogilvy en advertising ou les tu vois comment ça s'appelle les lettres de Boron ou des choses comme ça, c'est des vieux bouquins, mais il y a rien qui a changé. La psychologie humaine, elle a pas changé. Alors tu peux avoir des manières de dire qui ont changé, des expressions, des attentes, mais le fond du problème, c'est vraiment comprendre la psychologie de l'utilisateur final, en fait, d'utiliser les mêmes mots que lui utilise tout en gardant ta personnalité. Donc ta personnalité, bah, c'est ton branding, c'est ta stratégie de marque, et la manière dont tu vas lui parler, ça va être lui, comment il le reçoit, quoi. Donc non, pas de formation, et d'ailleurs je conseille pas forcément de formation. Je conseille le copywriting, c'est un peu une école, j'allais encore dire un poncif, j'allais dire une école de la vie, mais c'est, tu vois, des bons copywriters, par exemple, c'est les rappeurs. Tu vois, quand Booba, il te sort que des numéros 10 dans ma team ou des trucs comme ça, c'est des punchlines vraiment cool. Et les gens s'en rappellent, en fait. Et ça s'invente pas. C'est comme l'humour.
Ouais, mais c'est à force d'entraînement, je pense, clairement.
Oui, à force d'entraînement. Après, il y a quelque chose que je vais dire qui est un petit peu difficile à avaler pour certains, mais il y en a qui ont des prédispositions naturelles sur le copywriting. C'est ce qu'on appelle l'écriture prescriptiviste et l'écriture descriptiviste. Alors, je me rappelle jamais laquelle est, est quoi, mais en gros, imaginons que t'es comptable ou médecin. Tu vois, tu vas faire une ordonnance, quand t'es comptable, tu vas faire un rapport de comptabilité. Tu vas écrire, donc tu vas utiliser des mots, tu vas, etc. Mais ça, c'est de l'écriture, je crois que c'est prescriptiviste. Donc en fait, tu vas écrire, mais ton but, ça va être une écriture qui respecte les règles, une écriture, tu vois, terre à terre, mais une écriture presque académique. Mais ça, c'est presque une manière de penser. Et il y en a d'autres, ils vont avoir ce qu'on appelle l'écriture descriptiviste. L'écriture descriptiviste, c'est quand tu vas pouvoir jouer avec les mots, presque, tu vois, où est-ce que tu mets la virgule, où est-ce que tu mets le point, et presque donner du rythme, un peu du relief à tout ça, et jouer avec les règles, avec les mots, etc., etc. Et en fait, il y a des gens qui sont des gens naturellement prescriptivistes, d'autres qui sont naturellement descriptivistes. Voilà. Et en fait, c'est un lien aussi avec les choses que tu vas faire dans la vie, quoi, tu vois. Il y a des métiers qui sont plutôt proches des prescriptivistes, et tu as des métiers plutôt liés aux arts et à la création qui vont être pour les descriptivistes. Donc voilà, il y a des gens ont des prédispositions ou des qualités, on va dire, naturelles ou culturelles qu'ils ont validées au cours de leur évolution, et ils ont une personnalité qui les amène à faire des choses où ils vont être plus ou moins doué là-dedans. Et après, il y a les expériences de la vie, quoi. Tu peux très bien avoir été à Henri IV et avoir fait HEC et je sais pas, avoir voyagé, aller dans des musées et être naturellement mauvais ou peu prédisposé au copywriting. Et puis, tu peux avoir, de l'autre côté, tu vois, avoir eu des expériences, je sais pas, tu vois, en banlieue, mais qui t'ont amené un rapport différent. Tu peux avoir écouté différents types de musique qui t'ont amené des choses. Tu peux avoir rencontré d'autres gens qui t'ont fait réfléchir et être un boss du copywriting, comme je sais pas, Booba ou des gars comme ça, quoi. Donc c'est pas vrai, le copywriting, c'est pas vraiment quelque chose qui s'apprend, c'est plutôt quelque chose qui se pratique, et ça vient souvent aussi de ta vie, de ta capacité à avoir expérimenté les choses. C'est pour ça que souvent les publicitaires, les très bons publicitaires comme Jacques Séguéla, c'est des gens qui était plutôt aventurier, en fait, aventurier non conventionnel, qui souvent une pensée un peu divergente, tu vois. C'est sur ça, c'est donc c'est assez difficile, en fait, de savoir comment on devient un bon copywriter, en fait.
Ouais, moi j'ai plusieurs théories. Je pense que de base, faut mieux se tourner vers quelque chose qui nous appelle et on a le feu en nous et que on a l'impression d'être, que ça nourrit, qu'on est peut-être un peu meilleur que la masse. Bon, on est peut-être être expert et être bon à la perfection pour se lancer. Mais je pense que c'est quand on voit que, ah ouais, là, je suis doué là-dedans, je peux y aller. Et des fois, il y a, moi, par exemple, les maths, je suis bonne en maths et tout, j'aime l'analyse, j'analyse tout, j'analyse un peu trop tout et n'importe quoi. Que ce soit les maths, les discours, etc. Par exemple, j'ai un autre exemple de moi, ce que je fais. Je me suis lancée dans la photo, mais en, en amateur pour le délire, etc. Je me suis dit, allez, on va réaliser un rêve d'ado. Je me suis mise à la photo et je pense avec conviction que quand on part dans une idée folle, on est nul, on se rend compte qu'on est nul, et c'est à force de faire, de se remettre en question, de se bourrer le crâne avec des infos qu'on s'améliore. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé avec la photo. J'étais nulle, j'ai fait des photos immondes, c'est une catastrophe. Et en fait, à force de, tu vois, d'être comme dans l'entrepreneuriat, des phases de down et des phases où j'étais surexcitée, ben, je suis arrivée à m'en sortir et avoir des belles photos, après, t'arrives à avoir des modèles qui savent poser, qui sont plus en plus beaux, plus en plus à l'aise. Et en fait, moi, je pense que c'est vraiment, il y a une courbe d'apprentissage immonde, mais je pense que tout est possible avec beaucoup d'acharnement. Même les chirurgiens, je pense que les chirurgiens, au début, c'était pas incroyable, et à force de se casser la tête dans leurs études, bien sûr, ils sont devenus meilleurs, mais voilà. C'est comme le tout. C'est soit tu y vas parce qu'il y a une brèche où t'es pas mauvais, soit tu y vas en te disant ok, c'est pas grave, dans quelques mois je serai meilleur.
Ouais, clairement. Et c'est marrant que tu parles de la photo et des chirurgiens, parce que moi il y a un concept que j'aime bien qui s'appelle, les Américains appellent ça permissionless leverage. C'est qu'en fait en 2021 et l'ère post-internet, t'as besoin d'un levier. Et t'as besoin surtout de pas demander la permission aux autres. Donc tu sais, tu parlais de la photo, bah ouais, t'as pas besoin d'avoir fait une école d'art ou de photo pour faire de la photo. T'as pas besoin d'avoir fait une bonne école de cuisine pour faire des recettes incroyables. Même si la cuisine, c'est encore, je me demande, tu vois. Et de la même façon, en fait, il y a plein de choses. Et t'as pas, tu vois, moi j'ai pas fait d'école de journalisme, ça m'empêche pas de faire des articles. Et oui, c'est parce que c'est permissionless. Et c'est marrant que tu parles de chirurgien, parce que souvent, quand j'utilise ce terme de permissionless leverage, tu vois, quand tu vois trois jours des haters ou des mecs pour se dire, mais bon, si tu viens faire chirurgien du cœur, t'inquiète que je vais te demander la permission, enfin, tu vas devoir demander la permission, quoi, parce que il y a des choses qui sont pas permissionless. Genre, être chirurgien, t'es pas permissionless parce que t'as besoin de 10 ans d'études et c'est des choses qui sont hyper techniques, etc.
Le double pour certains médecins, oui. Mais c'est normal, ouais. c'est comme le droit, c'est comme être juge. Après, les choses, elles mettent utiliser l'extrême, alors qu'en fait, il y a plein de métiers. C'est un pourcentage de métiers qui sont de 10, 15%, ou oui, à un moment, il faut être cohérent. Tu vas pas être demain... Il y en a qui ont essayé, il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ont essayé d'être faux pilote de ligne, mais ça marche pas non plus, enfin, c'est logique. Mais je crois qu'ils aiment bien utiliser ça, tu sais, pour appuyer leur argument, prendre le truc vraiment... qui n'a aucun sens, que c'est tellement cohérent que jamais de la vie tu pourrais être comme ça. Mais voilà, c'est les haters, ça. Ils ont besoin d'appuyer un propos presque scandaleux pour que leur voix soit entendue et que les gens ils fassent ah ouais, il a raison.
Ouais, mais c'est, ouais sur ça. Mais il y a deux choses. Donc il y a le. En fait, il y a ce qui est permissionless et ce qui est pas permissionless. Bah, si tu par exemple, tu veux être entrepreneur, si tu veux scaler ton activité, tu peux le scaler par quatre types de capitaux. Donc, il y a le capital humain, il y a le capital technologique, il y a le capital financier et il y a le capital médiatique. Il y a deux capitaux qui sont permissionless et il y en a deux qui ne le sont pas. Par exemple, le capital humain, tu ne peux pas forcer une personne à venir dans ta boîte si elle n'accepte pas. Donc, tu as besoin de la permission de quelqu'un. Donc, pour ça, tu peux pas. Tu vois, si quelqu'un arrive en face de toi avec une équipe de 100 personnes, il a un levier devant toi, il a un leverage. Donc c'est. Alors et toi, tu peux pas rattraper ce leverage. Le deuxième, c'est le capital financier. Si quelqu'un arrive et qu'il a levé 50 millions d'un fonds d'investissement, il a demandé la permission, il l'a eu. Toi, tu pourras pas concourir, en tout cas sur le capital financier avec cette personne, parce qu'il te faut la permission d'une banque ou d'investisseurs pour choper ça. Donc ça, c'est pas permissionless. Et t'as deux autres types de capitaux qui sont permissionless. C'est le capital technologique et le capital médiatique. Si tu décides demain d'apprendre le code et de faire un bout de code et de faire un logiciel, t'en es propriétaire et on peut pas te le voler, quoi. Et t'as besoin de demander la permission ni à des gens, ni à des investisseurs. Donc ça, tu peux le scaler sans permission. Et la dernière chose, c'est le capital médiatique. Aujourd'hui, n'importe qui peut créer une chaîne YouTube ou une newsletter ou faire des posts sur LinkedIn sans demander la permission à personne et ça va scaler parce que plus tu vas aller dans le temps et plus ton contenu va être vu par plein de gens. Pareil pour la technologie, plus un nombre important de gens vont utiliser ta technologie et moins ça va te coûter cher en fait par rapport à tes investissements de départ. Donc ça c'est la première chose sur permissionless leverage. Et la deuxième chose sur les haters, c'est un bouquin qui s'appelle Messe, M-E-S-E. Ça a été un bouquin qui a été fait, je ne sais plus l'auteur, c'est une dame très intelligente. Et le bouquin, en fait, Messe, c'est mutually exclusive, collectively exhaustive. Voilà. C'est en gros, c'est une théorie qui va un peu former les cerveaux des gens qui font faire du conseil en stratégie, donc qui sont censés être les plus gros cerveaux, en tout cas les cerveaux les plus logiques dans leur approche des choses. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de haters, quand ils viennent te dire certains trucs, ils sont pas mutuellement exclusifs. Par exemple, en fait, ça veut dire que toi, tu dis un truc, eux, ils disent un truc, mais ce qu'ils disent est vrai, mais ça veut pas dire que ce que tu dis est faux. Mmh. Donc, je te donne un exemple. J'avais dit les deux plus gros... Et du coup, j'avais fait un post là-dessus, j'avais fait les deux plus gros actifs d'un entrepreneur sont le code et le média. J'avais dit parce qu'ils sont permissionless. En gros, c'était l'objet du post. Et t'as un mec, il vient voir dans le post, il dit mais si t'es chef dans un restaurant et que tu fais pas bien la cuisine, t'as beau avoir une chaîne YouTube et des lignes de code, tu vas te faire virer. Hein. Et en fait, c'est ce qui est probablement vrai en fait, c'est que si t'es chef dans un restaurant et que tu fais de la mauvaise cuisine mais que t'as une chaîne YouTube active et des lignes de code, peut-être que tu vas te faire virer. C'est vrai. Mais ça n'empêche pas que ce que j'ai dit, que les deux plus gros actifs permissionless d'un entrepreneur, c'était le code et le média, ça n'exclut pas ce que j'ai dit. Ça, parce que si un chef est bon et que, ou même un chef un petit peu moins bon, mais qui a beaucoup de médias, comme Gordon Ramsay, par exemple, Gordon Ramsay, on sait pas si c'est le meilleur chef du monde. Mais en tout cas, c'est le plus médiatique, tu vois. Le plus clivant, ouais. Mais c'est le plus connu. Mais il y a peut-être des gens dans le monde qui cuisinent mieux que Gordon Ramsay. Sauf qu'ils n'ont pas les actifs que Gordon Ramsay a. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à valeur égale, c'est beaucoup mieux d'avoir soit du code, soit du média. Mais ce qui n'est pas mutuellement exclusif avec le fait que si t'es un mauvais cuisinier, tu vas probablement te faire virer, même si t'as une chaîne YouTube. Donc, en gros, tu dis un truc, le mec arrive pour dire autre chose qui est vrai aussi et il pense qu'il t'a mouché. Non, parce que en fait, tu lui dis c'est pas mutuellement exclusif. Et tu lui dis ça et le mec, il comprend pas. Et en gros, souvent, les haters, ils viennent te dire des trucs et c'est pas mutuellement exclusif. Par exemple, tu vas dire aujourd'hui, Internet a modifié complètement le trajectoire de carrière et tu peux faire quasiment tout sans permission et sans besoin de diplôme, il y a un mec qui va dire ouais, mais si t'es chirurgien du cœur, il te faut un diplôme. Oui, c'est vrai, mais c'est pas mutuellement exclusif avec le fait que la société a changé grâce à Internet, tu vois, et qu'il y a des exceptions, bien sûr. Mais donc les gens, ils cherchent toujours en fait la petite bête à démonter ton raisonnement et ils utilisent des exceptions qui en fait sont pas mutuellement exclusives. Et je me suis rendu compte qu'en fait ce manque de rigueur intellectuelle, c'était presque la palme des haters, tu vois, ou des faux haters qui croient qu'ils vont te moucher. En fait.
Ça fait un peu c'est comme les platistes, tu vois. C'est pareil. C'est le même concept. C'est voilà, les mêmes arguments, mais sauf sur d'autres sujets. Genre, c'est pas cohérent, mais ça passe. Ok.
Ouais, non, mais je vois, ouais. Il y avait un groupe très drôle sur Facebook qui s'appelait. Je sais plus comment ça s'appelait. Mais c'était un truc de platiste, en fait. Et moi, j'étais assez fasciné parce que. Je me disais, en fait, ce que je vais voir, c'est essayer de comprendre leurs arguments. Et il y a un truc hyper intéressant, c'est que, je pense, attends, je bouge un peu là. C'est que dans le monde, si demain on brûlait tous les livres et tout Internet et qu'on devait tout recommencer, il y a beaucoup de gens, et moi le premier, on aurait du mal à recréer toutes les technologies qu'on a créées jusqu'à présent. Par exemple, si tu prends n'importe quelle personne et tu lui demandes de t'expliquer le concept de pourquoi un avion il se crache pas quand il vole, c'est hyper compliqué en fait. La même chose, est-ce que quelqu'un peut expliquer pourquoi, tu vois, quand il appuie sur un bouton, au même moment, de l'autre côté de la pièce, tu as une lumière qui s'allume. De la même façon, enfin, tu as des trucs incroyables. Genre, pourquoi, enfin, c'est quand même incroyable qu'avec un appareil, on arrive à appuyer sur un bouton et il y a une représentation de la réalité qui sort. Ça s'appelle une photographie. Mais quand on y pense, c'est quand même incroyable, tous ces trucs-là. Eh ben, tu me parles des platistes, c'est marrant parce que si tu demandes à quelqu'un d'aller expliquer de manière hyper logique pourquoi la Terre, elle est ronde, eh ben, il y a beaucoup de gens, et même moi, je pense que j'aurais un peu de mal à expliquer de manière logique et incontestable le fait que la Terre est ronde, enfin, la Terre est ovale et que la Terre est pas plate. Et du coup, je me suis dit, bah, ce serait un bon exemple, un bon exercice d'aller voir leurs arguments pour comprendre en fait comment tu peux construire des arguments pour ces théories et en fait qu'est-ce qui les pousse à essayer absolument de vouloir que la Terre soit plate aussi, parce que parfois il y a des gens, même si tu leur donnes des arguments logiques, ils vont quand même se dire que c'est un complot, etc. Donc moi, ça m'a beaucoup intéressé. Bon, après je suis parti parce que les gens étaient un peu bizarres, mais...
Et je vais juste passer rapidement sur LinkedIn, parce que c'est là où toi tu es le plus. Et à quel moment tu t'es dit, c'est là où je vais me donner à fond et je vais pas aller autre part que là-dessus?
Alors, pourquoi j'ai concentré mes efforts sur LinkedIn? Je vais commencer par citer Gary Vaynerchuk qui dit « Les deux plus grosses plateformes de traction actuelles, c'est LinkedIn et TikTok. » Ce qui est marrant parce qu'on se dit c'est opposé. LinkedIn, c'est tu vois, le réseau social avec la moyenne d'âge la plus haute, TikTok la plus basse. Il y en a un qui se veut sérieux, l'autre qui se veut hyper fun. Pourtant, les algorithmes sont assez similaires pour une raison très simple, c'est qu'il y a une grosse demande de contenu et il y a peu de créateurs. Parce que c'est dur, en fait. LinkedIn, c'est très difficile de créer. Tu peux pas juste prendre une photo de toi, la balancer et mettre une caption comme sur Facebook ou Instagram. Je dis pas que Instagram est facile, hein. C'est impossible que j'ai de l'attraction sur Instagram parce que je suis nul en photo et je sais pas, j'y arriverai pas. Mais c'est pas une question de est-ce que c'est plus dur ou c'est moins dur. Je dirais que LinkedIn est moins accessible en termes de ligne édito et de compréhension des besoins des utilisateurs. Et TikTok, je dirais que techniquement, le niveau des gens est tellement fort en termes d'humour, soit en termes de construction de leurs vidéos ou de leurs sketchs, que c'est pas forcément facile de comprendre ce qui se passe sur TikTok. Et du coup, Gary Vaynerchuk disait, c'est deux plateformes de traction. Donc pour moi, c'était, vu que j'ai pas mal d'appétence, toi tu disais par exemple pour la data, et moi mon appétence, c'est le B2B, la communication B2B, le marketing. Donc en fait, j'avais pas vraiment énormément de difficultés à naviguer là-dedans. J'ai beaucoup d'idées et j'ai bossé dans la pub. Donc en fait, je me suis dit ça peut être intéressant de voir ce qu'on peut faire là. Et j'ai essayé de prendre complètement à contre-pied la plateforme. Quand ils ont augmenté le nombre de caractères possibles de 1300 à 3000, c'est là où j'ai introduit ce qu'on appelle les link tweets, des micro posts LinkedIn de une ou deux phrases qui tiennent sur voire plus. Et ou alors j'ai mis des mèmes, enfin j'étais pas le seul, hein, mais j'ai mis plein de mèmes sur la plateforme pour faire rigoler les gens. Voilà, j'ai essayé plein de trucs parce que en fait c'est là où il y avait le plus d'acheteurs potentiels par rapport à Instagram ou autre. Donc j'ai concentré vraiment vraiment beaucoup mes efforts pour aider mon business à décoller. Donc c'est bien. Et maintenant que j'ai pas mal de traction sur LinkedIn, j'ai dépassé 15 000 abonnés aujourd'hui, je suis à 6 millions et demi de vues en 2020 cumulé. Je commence à essayer.
C'est énorme.
Hein, c'est beau. T'as dit quoi?
C'est énorme.
6 millions et demi, ouais, c'est beaucoup, hein. c'est top, hein. T'imagines le nombre de personnes qui ont, enfin, c'est pas 6 millions de personnes qui ont vu, c'est 6 millions de, enfin, disons que c'est un nombre de personnes qui fait que mes contenus ont été vus de manière cumulée 6 millions et demi de fois. Et donc du coup là j'ai un podcast et une newsletter aussi, voilà, où je rédige d'autres trucs. Le podcast c'est assez cool, mais LinkedIn c'était vraiment parce que il y a beaucoup de traction et aussi parce qu'il y a une énorme opportunité dans le sens où je dirais que sur tous les sujets professionnels, il y en a même pas un tiers qui est abordé. Alors, si tu fais du growth marketing, si tu fais du RH, si tu fais du, si t'es CEO, si t'es même en IT ou en design, ouais, sur LinkedIn, tu vas avoir plein de, tu vas avoir plein de gens là-dessus. Mais si tu fais, je sais pas, de la nutrition, si t'es coach sportif, si t'es prof dans l'éducation nationale, si t'es médecin, y a personne quasiment là-dessus. Donc en fait, c'est une opportunité énorme pour les gens d'être leader d'opinion dans un domaine. Et ça, ça quand t'as 700 millions d'utilisateurs sur LinkedIn et qu'on te parle de la médecine et que tu dises c'est qui le leader d'opinion sur LinkedIn et que les gens disent je sais pas, bah ça, c'est qu'il y a une énorme opportunité là-dessus en fait. Tu parlais de la photo, il n'y a pas de leader d'opinion de la photo sur LinkedIn par exemple. Et tout ça, c'est des opportunités qui sont low hanging fruit, comme disent les Américains. C'est, t'as juste à ramasser les fruits et à concentrer tes efforts dessus, et les gens le font pas. Donc, bah, moi, je le fais.
C'est comme je connais pas de leader d'opinion dans la data, et j'ai du mal à parler de data pour le moment.
Bah oui, oui, exactement. Leader d'opinion dans la data, exactement. Après, moi, c'est pas mon domaine, donc je sais pas trop, mais...
Ça te fait quoi d'avoir 15 000 personnes qui suivent et qui sont qui like hyper rapidement? Ça fait pas vanity métrique, flattage d'ego, je sais pas comment t'arrives à prendre du recul là-dessus, parce que même t'as lancé des concepts, le bonjour à te à tout, pardon, bonjour à tous sauf nanana, et après j'ai vu ça repris partout et tout, enfin tu trouves pas ça aussi fun que étrange, flippant?
Ouais, c'est, ouais, écoute, c'est marrant hein, que tu me dis ça. Alors, le bonjour à tous, c'est, disons qu'il y a des concepts que je les ai pas inventés, loin de là, hein, mais disons que je les ai introduits, comme t'as introduit, tu sais, un animal dans un pays ou dans une jungle et qu'ensuite ça se propage. Les bonjour à tous, ça vient de Twitter, donc c'est des oui. blagues qui font ça. C'est juste que moi, j'ai repris le concept et je l'ai appliqué. Sauf que tu vois, avant, les gens ils disent bonjour à tous sur Twitter, sauf à ceux qui sont en couple, parce que moi je suis toute seule. Enfin, tu vois, c'est des trucs liés à la vie. Et moi, j'ai repris des concepts un peu humoristiques dans l'univers professionnel, à des choses un peu plus. Et limite, plus c'était technique et plus ça me faisait rire, tu vois. Ou les mêmes, ou des choses comme ça. Et donc, oui, j'ai vu que ça a été repris. Alors, j'ai rien à dire parce que ça vient pas de moi, mais c'est oui, je vois qu'il y a des trucs qui sont repris et après je suis tagué, ah, c'est toi qui l'as fait, Thibaut, t'es le coupable, etc. J'ai pas de recul dessus. En fait, c'est tellement récent. Après, bon, 15 000 personnes, c'est bien, mais tu vois, à l'échelle des personnes, tu vois, sur Instagram ou des choses comme ça, c'est rien en fait, c'est pas ouais. beaucoup. Alors, c'est vrai que sur LinkedIn, c'est plus difficile d'avoir des auditeurs qualifiés. Mais je sais pas, moi je suis toujours la même personne et voilà, je me dis c'est bien, ça me permet d'avoir beaucoup de visibilité et surtout beaucoup de crédibilité auprès de gens qui viennent t'acheter. Je trouve ça bien, mais disons que c'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est plutôt le fait de pouvoir partager certaines choses que je pense, dire la vérité. Et que certaines personnes puissent dire ok, t'as refait ma journée, ça m'a aidé, j'ai eu l'impression d'être comprise, des choses comme ça. Il y a un côté un peu alter égoïste, mais déjà c'est thérapeutique pour moi parce que j'ai pas toujours été hyper bien dans mes baskets, tu vois. Et le fait de pouvoir écrire des choses et les partager, j'ai l'impression de plus connecter, tu vois, avec le monde, avec les autres, et ça me permet de ouais, c'est comme une thérapie. Donc il y a ça, et ensuite il y a le côté un peu alter égoïste de recevoir des messages de gens qui te disent t'as eu un impact sur ma vie avec ce que tu fais. Et c'est autant flippant que grisant, mais je crois que c'est aussi par rapport à ma mission, tu vois, ben, faire des posts de la communication pour des dirigeants B2B, c'est bien, ça peut avoir un impact sur leur société, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que si demain j'arrive à, je sais pas moi, à faire des sortes de cohort-based courses sur des gens, sur comment trouver leur voie, comment être indépendant, etc., et qu'ils aient une feuille de route et que je puisse me dire, ok, Thibaut, t'as changé la vie de ces gens-là, bah ça, ce serait vraiment cool, tu vois, parce que c'est fou, mais moi j'ai passé des années à pas avoir de boussole et je me dis, en fait, j'essaie de parler, quand j'écris, j'essaie de parler à cette personne il y a 3 ans, tu vois, ou il y a 2 ans, en essayant de lui dire tout ce que j'aurais aimé savoir maintenant. Et en plus, je suis qu'au début, hein. Mais un mindset un peu explorateur, quoi. Donc, j'ai pas de recul là-dessus. Je sais pas trop. Mais c'est intéressant, quoi.
Mais t'as atteint tes objectifs que tu t'étais mis en place il y a 2 ans, par exemple?
En fait, c'est intéressant parce que quand je vois à chaque fois les progrès que je fais d'année en année, je me dis, putain, mais je suis rien à voir avec la personne d'il y a un an. Enfin, rien à voir. Enfin, assez proche, mais j'apprends tellement, quoi. Et c'est pour ça que, tu vois, quand un recruteur, il dit, tu te vois où dans 5 ans? Bah, en fait, je sais pas, parce que déjà, dans un an, je sais pas dans quel état d'esprit je serai. Donc, j'ai pas spécialement d'objectif il y a 2 ans. Je dirais que si il y a 2 ans, on m'avait dit que je serais dans la position dans laquelle je suis aujourd'hui, il y a 2 ans, j'aurais signé, quoi. Large. Large. Et pour l'instant, j'ai l'impression d'être qu'au début. Tu vois, genre, moi, je suis entrepreneur depuis un an. La construction d'audience, j'ai compris assez récemment que c'était important. Avant, j'avais même une mauvaise image de ça. Pour moi, les constructeurs d'audience, c'était qui me gardaient à chiant sur Insta, quoi. Et ou les anges de la télé-réalité, que je pensais pas que tu pouvais avoir une audience très qualifié, que ça pouvait t'apporter beaucoup de choses. Je pensais qu'il fallait avoir beaucoup d'abonnés et vendre des shampoings en marque blanche, quoi. J'avais pas compris que tu pouvais aussi avoir une chaîne YouTube avec 100 abonnés et faire en sorte que, bah, il y a des gens, ils te kiffent et que tu puisses vraiment être content et que ça ait des impacts sur ta vie, quoi. Ça, je l'ai compris assez récemment, en fait, hein.
C'est le principal, en fait, d'atteindre tes objectifs, te rendre compte que c'est, enfin, je sais pas comment dire ça, non, mais, en fait, tu dis plusieurs choses et le fait d'évoluer d'année en année, moi, je trouve que c'est ça la plus grande réussite. C'est ouais. De pas être du tout à la même place que t'étais il y a un an.
Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Et là, dans l'avant-dernier podcast que j'ai fait, Les Rois du Scale avec Lee Slimane, à la fin, je lui ai demandé, c'est quoi la next step? C'est quoi l'objectif? Et Lee Slimane, elle m'a dit, j'ai eu tellement de mal à me stabiliser dans ma vie qu'elle m'a dit l'objectif, c'est juste keep going, en fait. C'est pas grossir, c'est pas grandir, c'est pas être plus ci, être plus ça. L'objectif, c'est je suis bien dans mes pompes actuellement et si je peux rester aussi épanoui et équilibré que je suis aujourd'hui, je serai déjà hyper heureuse, tu vois. Et j'ai beaucoup aimé cette perspective. Alors moi, j'ai un côté à moitié cinglé, donc c'est un peu dur de stabiliser, mais je trouve qu'il y a une belle philosophie là-dedans, dans la croissance, c'est pas toujours bien, tu vois. Parfois, la stabilisation, c'est bien. Ce qui t'empêche pas d'amener de nouveaux objectifs, mais je sais pas. Moi, j'ai l'impression, en fait, j'avais de l'ambition, je voulais faire plein de choses et je me suis un peu égaré pendant un moment. Et là, je suis en train de revenir en arrière, en fait, un peu mes opinions, les choses comme ça. Comme si je reprenais un peu une revanche, tu vois, sur quelques années un peu de galère et de difficultés, on va dire.
Difficultés, c'est-à-dire dans l'entrepreneuriat ou dans le monde salariat?
Non, alors moi, je suis entrepreneur depuis un an, mais ça faisait un moment que je voulais être entrepreneur. Donc, comme je t'ai dit, en fait, je pensais qu'avant, moi, j'étais biberonné startup. Donc, pour moi, l'évidence, c'était tu crées un produit, tu lèves des fonds et tu vas vendre, tu vois. Ensuite, alors que maintenant je me dis, c'est peut-être mieux de commencer par une audience. C'est-à-dire, en fait, tu construis d'abord du contenu et ensuite tu réfléchis à ce que tu vends, comment tu le vends, grâce en itérant, quoi. Mais comme dit Jack Butcher, build distribution first, then build whatever the fuck you want. Bah, tu vois, je pense que c'est le truc que j'aurais dû. J'ai dit à mon pote, hein, j'ai dit, ça, faut que tu le mettes sur des toilettes, quoi. Quand t'as compris ça, t'as tout compris. Mais oui, dans le salariat, j'ai eu des galères, ouais. Ouais. J'en ai parlé dans un post LinkedIn qui avait vraiment bien marché. J'ai bossé dans une boîte où c'était vraiment difficile. J'ai pris quelques coups. Et sinon, j'ai un peu renié ma nature dans le salariat, dans le sens où moi, je suis quelqu'un de très libre, même si c'est une notion très vague, très libre. Je suis assez créatif. J'aime beaucoup l'innovation, j'aime bien quand ça va vite. Mmh. Et, et j'étais un peu bloqué dans le salariat, et je pense que ça m'a, c'est trop bizarre, mais ça m'a marqué physiquement, en fait, et psychiquement. Et là, je suis en train presque de guérir certaines blessures, tu vois. C'est un peu bizarre à dire comme ça, parce que ma vie était assez cool, quoi, tu vois. Genre, mais, enfin, mais, j'ai jamais manqué d'argent, mes parents étaient toujours cool avec moi, tu vois, j'ai une bonne éducation, donc je me plains pas. Mais tu vois, à chacun, ses propres batailles, quoi. Et les miennes, c'était en fait à un moment, l'impression de renier une nature et de vraiment avancer contre la personne que tu es, et essayer de mettre un masque et un costume de quelqu'un que t'es pas. Et tu vois. Et en fait, ça m'a saoulé, quoi, pendant des années. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment, vraiment modifié plein de choses dans ma vie là-dessus pour être plus aligné. Voilà. Je pense que l'important, c'est l'alignement.
Oui, des fois, ça met un peu plus de temps, mais comme chacun... Enfin, je sais pas comment dire ça, mais ouais, être aligné, en fait, c'est autant une philosophie que la réalité.
Ouais.
Il y en a qui le prennent un peu à la légère, et c'est vrai que si t'es pas aligné du tout, t'es fatigué psychologiquement... physiquement, oui, ça se voit sur le corps, exactement.
Ouais, ouais. Ouais,
ça, c'est ça qu'on a après des cicatrices, c'est qu'il faut beaucoup de temps, des fois des coachings, ouais, ouais. Des thérapies pour s'en sortir.
Ouais, 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 non, mais c'est clair. Bah, sur l'alignement, après, le truc, c'est parfois t'es pas aligné, mais t'as pas forcément soit de boussole, soit les ressources pour changer, en fait, ça, tu vois. Et moi, c'est ouf parce que j'ai fait deux grandes écoles. Genre mon père ingénieur, enfin j'ai toujours été bien accompagné, et pour autant il y a des moments où je me dis il m'a manqué du savoir, il m'a manqué de me poser les bonnes questions, enfin c'est donc voilà, et le fait de suivre des personnes très intelligentes, des Américains sur Twitter, de lire 2-3 trucs vraiment cool, on modifiait ma perspective, mais il fallait pas besoin de grand chose, il y avait besoin de ça, donc un peu de knowledge, un peu d'expertise. Et je pense qu'il y a besoin surtout de courage, quoi, en fait. Je pense que j'ai probablement manqué de courage à un moment.
Après, c'est dur, enfin, de sortir quand t'es bien dans un cocon et de tout casser et de repartir à zéro. Ouais. En fait, c'est tellement inconfortable.
Mais justement, moi, j'étais mal dans mon cocon. C'est ça, le truc. C'est qu'en fait, j'étais mal.
Ouais, mais c'est un paradoxe, en fait. C'est que quand t'es au pied du mur, tu vois, quand t'es dans la douleur extrême, que t'en peux plus, que là, tu...
Ouais, mais tu vois, c'est exact. Sur ça, alors ça, c'est un peu, disons, perso, mais tu vois, j'ai commencé à me pencher sur l'entrepreneuriat, je pense, il y a 4-5 ans, tu vois, 4 ans. Et à l'époque, c'était juste, je savais pas trop ce que c'était une entreprise, je savais pas trop comment ça marchait, tu vois, c'était très, très vague. C'était très, très vague. Mais j'avais émis l'hypothèse, etc., mais je comprenais rien. Ensuite, je me suis dit, OK, on va faire un master business pour se rapprocher de ça, etc., etc. Et je voulais vraiment faire le truc à l'époque, mais et à un moment, je me suis dit, putain, j'ai pas d'associé, j'ai pas de truc, je sais même pas par quoi commencer. Enfin, et en fait, il y a un moment où je suis retourné dans le salariat et je me suis dit, en fait, Thibaut, tu crois que tu vas être entrepreneur? Et même moi, je me disais, mais en fait, t'es en train de te mentir. Si ça se trouve, tu vas jamais, jamais le faire. En fait, t'es juste un lâche. Tu vois, je me disais, t'es un lâche. Et en fait, c'est marrant parce que je suis parti de mon taf pour des raisons diverses et variées, et je me suis retrouvé, dans une ville où il y avait des collines de sable, et je te jure, j'ai fait 3 jours sans m'arrêter à marcher sur les collines. Bon, j'allais dormir, hein, bien sûr, mais je me baladais, je me disais, mais Thibaut, tu vas faire quoi de ta vie, quoi? Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, de toute façon, t'as toujours voulu être entrepreneur, est-ce que c'est pas maintenant le moment où faut le faire, quoi? Et de commencer vraiment petit. J'avais lu un livre vraiment cool qui s'appelle Company of One de Paul Jarvis, Why Staying Small is the Next Big Thing, où il t'explique qu'en fait, les entrepreneurs, ils arrivent, ils ont rien, ils n'ont pas de produits, ils n'ont pas d'équipe, et ils disent, ouais, on va lancer des fusées, tu vois. Et tu lui dis, non, ça ne marche pas comme ça, il faut d'abord que tu construises un petit truc, et après, ça va devenir gros. Et c'est la philosophie de Paul Jarvis. En fait. Et le truc, c'est que moi, je pensais toujours immédiatement des énormes opportunités de marché, où il y a besoin de beaucoup de capital de départ, où tu as besoin de la tech, tu as besoin de trucs. Et en fait, non, Thibaut, l'entrepreneuriat, c'est aussi, tu vas démarcher un mec, tu lui proposes un article de blog et tu lui vends l'article de blog. Bon, si tu fais ça, tu le vends à 10 personnes, tu es entrepreneur. Et en fait, le truc, c'est que déjà, fais ça, Et déjà, tu pourras, et déjà, t'es entrepreneur. Et ensuite, ben, je sais pas si, ensuite, monte une agence, ou monte un SaaS d'orthographe, j'en sais rien, mais commence par un vrai truc, quoi. Et en fait, c'est ça, le truc, c'est que c'est commencer petit, qui est 0 to 1, comme dirait Peter Thiel, ce qui me manquait. Donc, je l'ai fait. Et maintenant, ben, j'essaie de grossir petit à petit, quoi.
C'est bien qu'il y ait les Américains qui soient là pour un peu nous aiguiller, parce que des ressources comme ça, écrites par des Français, ou même on n'apprend tellement pas ça en France que...
Ouais, non mais c'est clair, c'est clair. Alors, je sais que les gens, il y a des gens, c'est viscéral quand je leur dis ça, parce que les États-Unis, il y a vraiment des choses extraordinaires là-bas, et en même temps, sur certains trucs, c'est probablement un des pires pays possibles.
Oh oui.
Si tu prends le taux d'incarcération par habitant, par exemple, c'est juste n'importe quoi. Donc c'est un pays où tu te demandes, voilà, les armées, enfin le taux de militaires à l'étranger, ou le nombre de morts dans la, enfin, il y a plein de trucs qui clochent. Ok, là je suis d'accord. Donc ça a fait que les gens n'aiment pas les États-Unis, et c'est viscéral. Mais on peut pas mettre sous le tapis le fait que c'est quand même un pays qui détient, enfin, parmi les plus gros cerveaux en sciences, et sur leur état d'esprit, il y en a beaucoup qui sont en avance, tu vois, dans la Silicon Valley, à Miami, et ces gens-là, en fait, ils ont beaucoup, beaucoup d'influence sur les Français. Et d'ailleurs, souvent, les gens, tu vois, dans le modèle copywriting, tu vois, création de contenu, ils ont les mêmes influences. David Perel, Jack Butcher, Naval Ravikant, Daniel Vassallo, Paul Graham, le fondateur de Y Combinator, tu vois, des gens comme ça. Et en fait, c'est marrant, quand tu parles avec d'autres personnes qui connaissent ces gens-là, ils partagent la philosophie, ils ont lu ces trucs, et en fait, c'est des personnes différentes, et ils disent, ouais, c'est fou, faut les lire, et t'as l'impression de parler un langage différent. Et en fait, ces esprits brillants, disons que des gens qui ont fait l'écart, ils ont les mêmes références, et pourtant, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5 ou 10. Et donc, en fait, on est 7 milliards ou 8 milliards d'êtres humains sur la planète, et il n'y a qu'une poignée qui inspire le même nombre de gens. Alors que j'ai même dit dans ce podcast que tout était dispo sur Internet gratuitement. C'est vrai, et en même temps, c'est pas si accessible, parce qu'il faut que quelqu'un t'explique tout ça. Et si t'es pas bien aiguillé, c'est difficile de faire son chemin là-dedans, quoi. Donc, c'est pas facile, ouais. Et des ressources en France là-dessus, c'est pas évident. Pas évident.
C'est logique qu'il y ait plus de... Enfin, si tu prends l'échelle de la France et de l'Amérique, il y a quand même beaucoup plus de personnes en Amérique. Ça fait combien de fois plus la France? Donc, c'est sûr qu'au prorata, ils ont plus de personnes. Nous, on ferait à l'échelle de l'Europe, si on comptait, je crois qu'il y a à peu près comme les États-Unis, on arrivera à avoir un taux quasiment égal, sauf qu'ils ne parlent pas toutes la même langue et c'est un peu le bordel. Et en France, malheureusement, on itère et on fait rien. On est là, ouais, je sais pas, nanana, on juge les autres, les gens qui sont motivés, on les démotive, on les pointe du doigt. Donc je pense qu'on a déjà tellement une philosophie inverse de l'Amérique, qui se disent, nous, on y va, on s'en fout, on essaye, peu importe, ça marche pas, on vend du vent avant de vendre un produit. Enfin, eux, ils sont tellement dans une autre philosophie que si nous, on avait cette philosophie-là, peut-être qu'il y aurait plus de gens, en fait, qui prendraient la parole et qui oseraient. Et là, pareil sur LinkedIn, s'il n'y en a pas beaucoup, c'est parce que les gens, ils ont peur de s'exprimer. Je pense que le français de base a peur de s'exprimer parce que eux, ils parlent aussi depuis leur enfance en Amérique. Alors que nous, quand on dit quelqu'un a une question, que ça soit la maternelle, que ça soit au collège, que ça soit dans une réunion pro, personne n'a des questions en fait.
Ouais. Bah écoute, oui, l'Union européenne, ça fait à peu près la taille des États-Unis en termes de population. Et comme tu as dit, c'est difficile de savoir. Les yeux des uns et des autres, parce que on parle espagnol, on parle allemand, on parle français, mais les Américains, ils parlent anglais, et donc vu que c'est les champions là-dessus, enfin,
c'est une seule voix, tu vois.
Oui, exactement. Donc sur le par rapport au marché unique, c'est clair. D'ailleurs, moi je m'exprime en français, le podcast qu'on fait, il est en français. Enfin, du coup, on en fait, la France, le fait d'écrire en français, c'est j'ai l'impression que c'est quand même une chance pour nous, parce que tu vois, je sais pas si les gens sont estoniens, par exemple. Du coup, moi, je parle pas estonien, tu parles pas estonien, et personne parle estonien à part les estoniens. Donc, du coup, en tant que créateur de contenu estonien, t'as un monopole sur le fait que t'écris en estonien, et donc que les Américains peuvent pas venir sur le marché du contenu estonien. Sauf que t'as des Estoniens qui vont kiffer ce que font les Américains, et du coup tu rentres aussi en compétition là-dessus. Et en fait, quand t'es français, c'est intéressant parce que le marché francophone, il est grand. Tu vois, c'est bah t'as la, enfin le marché francophone, c'est pas que la France. Tu vois, t'as la Belgique, t'as la Suisse, t'as certains pays en Afrique, etc., etc.
Le Québec.
Ouais, le Québec. Bah oui, le Québec aussi. Et du coup.
Il y a des Italiens qui parlent français. Bref,
parle. Ouais, voilà. Ouais, bah oui, il y a plein d'autres gens qui parlent français. Donc en fait, tu disons que t'es sur une niche, mais t'es sur une niche qui est énorme, qui est la niche française. Où les Américains peuvent pas comprendre ce que tu dis, mais sauf que il y a assez de gens sur la planète qui peuvent comprendre ce que tu dis. Donc en fait, c'est à la fois a blessing and a curse, quoi. Et donc sur ça, on a de la chance, je pense, d'être français sur la création de contenu, parce que tu peux créer du contenu dans ta langue natale et en même temps faire en sorte que ça soit vu par assez de personnes, et notamment par des personnes qui consomment pas l'anglais. J'ai fait un sondage sur LinkedIn en demandant, qu'est-ce que vous faites si vous voyez des posts en anglais? Et je crois qu'il y a un tiers des gens qui avaient dit, je passe mon tour, quoi. Genre, ils lisent même pas, en fait, l'anglais. Et ces gens-là, tu les captes. Sauf qu'à la différence des Estoniens, le marché francophone est assez large pour que ces personnes qui lisent pas l'anglais, tu sois en situation de monopole sur eux.
On va passer à la troisième partie parce qu'on a beaucoup parlé. Mais c'était très intéressant. Moi, je voulais savoir quel est ton plus grand défaut.
Tu vois, c'est marrant parce que rien que le dire, c'est dur, quoi. Je pense que les deux plus gros ou ceux qui me gênent le plus, je dirais, parce que souvent on dit nos défauts sont otages des qualités, quoi. Et en fait je pense le premier, c'est l'organisation, manque d'organisation ou de rigueur, je sais pas comment on dirait, mais qui est un pendant qui est, je pense, je suis très créatif, en fait. Souvent le manque d'organisation, c'est le pendant néfaste d'une créativité illimitée. Parce que des gens, alors tu peux être ultra organisé, mais si t'es ultra organisé de base, ça peut parfois nuire à ta créativité, en fait. Le chaos peut être un bon outil d'innovation. Voilà. Et la deuxième chose, c'est la discipline. C'est mon manque de discipline. Et tu vois, par exemple, tu m'as dit, ouais, là, t'as 15 000 abonnés, tu fais plusieurs millions de vues, etc. Mais en fait, j'avais commencé à créer un petit peu de contenu avant, sauf que c'était toujours sporadique, un truc par-ci, un truc par-là. C'était pas, et du coup, ça manquait de discipline, dans le sens, pas la discipline quand tu l'entends être discipliné, l'ordre, mais la discipline de continuer à faire les choses, en fait. Et ça, c'est ce qui me manque, je pense, dans la vie, c'est plus d'organisation et plus de discipline.
Je crois que c'est des mots qui font tellement peur aux gens.
Bah, le chaos, hein, quand je dis chaos, il y a des gens, ça leur fait très peur, le chaos. Hein. Moi, le chaos, je comme dit Batman, I embrace chaos, tu vois.
Qu'est-ce que tu détestes faire dans ta boîte?
Qu'est-ce que je déteste faire? Tout ce qui est, tout ce qui n'apporte pas de valeur ajoutée mais que tu dois faire quand même. Envoyer des factures, faire des devis. Gérer l'émotionnel aussi, ça m'a saoulé. Genre, il y a un ou deux clients, là, qui m'ont, sur lequel c'était un peu difficile, tu vois. C'est moi qui ai arrêté la collaboration, et c'est rare, hein, c'est très rare, parce que souvent je les qualifie avant, mais gérer les bas, on va dire, avec les clients, c'est quelque chose qui a tendance à me saouler, et surtout quand on a de l'émotionnel qui vient, quoi.
Parce que quand on est freelance, les gens ils savent pas, mais ouais, tout, c'est vraiment une position particulière à des moments.
Ouais, mais parfois t'es très seul, en fait, hein. Les freelances, c'est la condition inhérente, hein, de la solitude, quoi. Et parfois les gens, en fait, c'est parfois les gens, ils peuvent pas t'aider, en fait, parce que même quand t'as une boîte ou quand t'es salarié, c'est pas la même chose, tu vois. De quand tu travailles avec un freelance, c'est pas le même type d'organisation, c'est pas les mêmes process, c'est pas la même vélocité, c'est pas les mêmes protections. Et donc il y a peu de gens qui peuvent comprendre parfois, en fait, en freelance, ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est une condition en France qui est tellement peu connue que ça peut arriver souvent que moi je fasse une prestation de freelance avec quelqu'un et que je sois le premier freelance qu'il connaît. Et du coup, parfois ils peuvent te, alors ça c'était surtout au début, mais ils peuvent pas trop savoir comment te prendre ou te mal te prendre, tu vois. La pire chose, c'est une boîte qui prend le freelance pour un salarié, en fait, tu vois.
Ça existe tellement.
Oui, alors moi ça m'arrive assez peu, mais quelqu'un qui pense, en fait le voilà, ça c'est intéressant, mais si quelqu'un, si une boîte ou un dirigeant prend un freelance et qu'il pense qu'il y a un rapport hiérarchique, il est dans le faux, en fait. S'il dit tu fais ça ou tu fais ça, en fait, le freelance, tu peux le, enfin, il est censé évidemment écouter, mais le freelance est censé aussi résoudre des problèmes. Le freelance, souvent, c'est un expert. Et en fait, souvent, t'as presque envie de dire au gars, bah, si tu veux que je fasse ce que tu me dises de faire, ben à ce moment-là, pourquoi t'as pas trouvé le moyen de le faire toi-même ? Et en fait, souvent, le freelance, il est pas là pour exécuter ce que dit la personne, il est là aussi pour l'accompagner. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'un salarié, bah, il y a un contrat, donc bah, on lui dit il doit venir de 8h à 20h, etc., du lundi au vendredi. Enfin, c'est dans son contrat, quoi. C'est une obligation contractuelle contre laquelle il est rémunéré. Un freelance, il peut choisir de ne pas travailler avec toi aussi. Donc, un freelance, tu peux très bien lui proposer du travail, et il va dire non, je suis booké, ou non, j'ai pas envie, etc. Donc, en fait, c'est plutôt un truc global, mais quelqu'un qui te prend, pour juste un prestataire, une commodité, que lui, il est, limite, tu devrais dire merci qu'il te paye, ça, c'est difficile. Mais moi, j'essaie de les qualifier avant et de les éviter pour pas avoir ce genre de truc, quoi. Sinon, il va y avoir un moment douloureux où tu vas devoir faire un recadrage et souvent, c'est agréable ni pour la personne en face, ni pour toi, quoi.
Et moi, je veux savoir comment tu les qualifies, si tu peux me dire rapidement.
En fait, je mets quelques barrières. Parce que parfois les gens, tu sais pas trop. Enfin, ils viennent, ils te contactent et en fait, ils savent pas trop pourquoi. Donc moi, je leur dis merci pour ton contact et je les redirige vers un typeform. Et dans le typeform, il y a des questions. Notamment dans ces questions, il est question d'un budget minimum. Donc en fait, ils savent que s'ils viennent me voir, ils doivent dépenser au minimum ça par mois. Ensuite, je qualifie si l'accompagnement, ils veulent plutôt de la courte durée, de la longue durée. Je leur demande de d'écrire très très précisément leurs besoins et ensuite de donner leur mail ou un truc comme ça. Et déjà, ça me permet de savoir leur niveau de sérieux, parce que par exemple, s'ils remplissent pas le typeform, je me dis s'ils prennent pas même pas, parce que je leur dis hein, le typeform va prendre 2 minutes. S'ils prennent même pas 2 minutes pour m'aider à centraliser mes demandes et à m'expliquer ce qu'ils veulent. Clairement, s'ils ont pas ces 2 minutes là maintenant, ils auront pas 1 heure par semaine plus tard, en fait. Donc je vais pas leur courir derrière. D'ailleurs, souvent je les relance pas. Et donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, bah, j'analyse les réponses. Hein. Si quelqu'un a bien qualifié le truc, ok. Et si, bah, sinon, s'il a fait ça et qu'il s'en fout, bah c'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Parce que en fait, ton plus gros actif en tant que freelance, c'est ton temps. Le temps, c'est incompressible. Et si tu le gaspilles avec des gens sans te protéger, tu peux pas scaler, en fait. Donc, il y a un moment où il faut savoir. En fait, faut savoir dire oui très souvent oui au début et de plus en plus dire non après pour te protéger. Au début, dire oui pour gagner de l'argent, gagner des clients et avoir des, tu vois, des comptes rendus à faire, des présentations de ce que t'as pu faire, etc., faire du chiffre, et tu vois, faire du bouche à oreille, etc. Mais à partir du moment où t'es arrivé à un certain niveau d'expertise, c'est stop, quoi, parce qu'il faut se protéger sa santé, son temps, et se reposer, etc., etc.
D'accord, je note tout ça, c'est plutôt pas mal. Je veux savoir si t'avais une anecdote honteuse ou marrante à nous partager.
Ouais. Alors j'en ai plein, hein. Mais il y a un truc que j'ai fait. J'ai posté sur ça aujourd'hui sur LinkedIn. J'en ai parlé dans ma newsletter, donc je peux en parler. En fait, quand t'es freelance, le plus dur pour les gens, c'est de se vendre. En fait, c'est parce que la vente, c'est un mauvais mot, tu vois. Quand on dit, tu vois, c'est stylé d'être ingénieur, c'est stylé d'être architecte, mais vendeur, ça va pas du tout, quoi. C'est un mauvais cliché. Le truc, c'est que mais on est toujours en train de se vendre. Quand tu t'envoies un CV ou quand tu fais un entretien, bah, tu te vends. Quand on t'envoie un e-book ou que tu fais un post LinkedIn, tu vends un peu ta sauce, ta tête. Et sauf que moi, je comprenais rien à la vente et j'ai fait un entretien dans la vente, donc pour une start-up en commercial. Et je comprenais rien à la vente. Et à un moment, donc l'entretien se passe bien, à un moment, le mec en face, il dit, dessine-moi une maison. Dessine-moi ma maison idéale ou ma maison rêvée. Et en fait, c'est une C'est comme vends-moi ce stylo. En fait, on s'en fout que tu vendes le stylo. Parce qu'en fait, son but à la personne qui te pose la question, c'est de savoir si t'es un bon vendeur et si t'as le mindset vendeur. Si t'as le mindset vendeur et que t'es un vendeur qualifié, tu vas dire, vends-moi ce stylo. Tu vas dire, bah, ok, ça fait combien de temps que vous êtes sur le marché sur ce stylo? Décrivez-moi votre stylo idéal. Quels sont les plus gros critères importants pour vous pour acheter ce stylo, etc., etc. Et en fait, les meilleurs sales sont les gens qui posent les meilleures questions et qui écoutent le plus. Et du coup, ça va leur permettre de qualifier et notamment de ne pas passer beaucoup trop de temps avec des gens qui sont pas qualifiés. Et donc, tu vois, 99% des gens, tu leur demandes de vendre ce stylo, ils te commencent à te pitcher. Ce stylo est formidable, ce stylo est ci, ce stylo est ça. Et en fait, les 1% des gens qui sont des bons sales, ils te posent des questions. Et en fait, le but d'un recruteur, quand il pose cette question, c'est d'identifier immédiatement si tu commences par pitcher ou si tu commences par poser des questions. Et tu vois, aux États-Unis, c'est une question vraiment... Enfin, c'est un truc de base, quoi, tu vois. Et en fait, moi, il m'a demandé de... Donc, le recruteur me demande de lui dessiner sa maison idéale. Et moi, j'ai pris un papier et j'ai pris un stylo et j'ai commencé à dessiner une maison, tu vois. Alors que, tu vois, j'étais fait Bac plus 5, j'ai fait le SCP, et j'ai vu le regard du mec, et je pense qu'il était choqué. Genre, il s'est dit, mais comment ça se fait qu'il ait géré autant l'entretien pour me montrer à tel point son incompétence maintenant? Et en fait, il était choqué que je connaisse même pas ce trick. Et c'est juste, dessine-moi la maison, et j'ai dessiné la maison, et je suis sorti de là, et je me suis dit, mais Thibaut, attends, le mec te demande de dessiner une maison, en plus, je sais pas dessiner. Et genre, je sais pas, avec le stress tout, j'ai dessiné une vieille maison toute pourrie, et je savais pas comment m'en sortir, et même en dessinant, je me disais, mais c'est bizarre de dessiner une maison, et j'ai même pas demandé pourquoi, j'ai même pas qualifié, j'ai commencé à dessiner une maison toute pourrie. Et après, je me suis dit, mais Thibaut, t'es vraiment un débile quand même, tu vois.
J'avoue que c'est marrant, mais après, la phrase, je trouve qu'elle est mal tournée. Enfin, je sais pas, dessine-moi une maison. Bah, si tu fais premier degré, tu dessines la maison, et puis si tu es stressé, tu vas faire une bourde, enfin, je trouve que la question est malade.
Bah oui, mais c'est... Bah non, mais c'est bah justement la c'est une question qui est faite exprès pour.
Ah ouais, bah je suis pas assez
pour, en fait tu décèles immédiatement si la personne est quelqu'un qui est là par hasard ou si c'est un professionnel du sales, parce que un mec qui est vraiment bon en sales, qui va avoir de l'expérience, il va dodger le truc, quoi. Il va jamais te, en fait, t'adoptes un état d'esprit qui est un état d'esprit de qualification. En fait, les meilleurs vendeurs, c'est toi qui vas savoir si t'achètes ou pas, mais en fait c'est eux qui vont savoir si t'es assez important pour qu'ils achètent. En fait, c'est marrant, mais les meilleurs vendeurs, c'est des gens qui posent que des questions et c'est eux qui prennent la décision, en fait. C'est trop bizarre. Et ça, c'est, si t'arrives à avoir des éléments comme ça dans ton organisation, c'est hyper hyper cool, quoi. Et donc du coup, bah, cette question permet en fait de déceler les 1% des gens qui ont cet état d'esprit là. Donc, ce qui veut pas dire que si tu le fais pas, tu seras un mauvais commercial. C'est juste que ça veut dire qu'il faudra t'entraîner, ça veut dire que tu auras du temps pour adopter cet état d'esprit, etc. En revanche, un mec qui gère bien le truc, on peut voir assez vite que si c'est un tueur ou pas. Mais que la question soit bien amenée ou pas, hein, mais t'as plein de questions différentes pour amener ça.
Ah ouais, mais moi je suis trop au premier degré, tu vois, moi la question, il faut qu'elle soit posée bien, c'est peut-être mon esprit d'analyste, tu vois, faut que ça soit une cohérence, sinon... Voilà, premier degré.
Non, mais tu le ferais naturellement. Si un mec arrive et te dit « Oui, je voudrais un tableau Excel, j'en sais rien, avec de la data », dans la data, tu vas lui demander « Oui, mais c'est dans quel but, c'est pourquoi, etc. » Enfin, tu vois, tu vas le faire naturellement dans la data, alors que tu vois, le truc de dessiner la maison, t'es pas dessinatrice. Mais dans la data, tu ferais naturellement, tu poserais les bonnes questions, sans t'en rendre compte.
Ouais, mais après, du côté vendeur, c'est ça que je veux dire. Enfin, j'aurais aussi premier degré fait « J'aurais dit la coque, si tu me racontes. » Dessiner une maison, mais je suis pas architecte, moi.
Ouais, non, mais je vois. Mais non, mais c'est pour ça. Et le truc, c'est que moi, j'ai même pas posé de question. J'ai dessiné la maison. Et je me suis dit, mais Thibaut, t'es analytique. Normalement, tu devrais te douter qu'il y a un souci, quoi, tu vois. C'est, vends-moi ce stylo. Et en fait, il dit, c'est le midi-spend. Et tous les gars, ils commencent à pitcher. Et tu vois le film et tu dis, mais pourquoi DiCaprio, il écoute même pas les mecs parler? Et ben, en fait, c'est ça. C'est que, en fait, tu peux faire le meilleur pitch du monde et faire une vente, mais pour autant, tu seras pas identifié comme un sales professionnel, quoi. Et c'est pour ça que DiCaprio, il laisse pas les gens aller au bout, et tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait dire quand tu me dis que c'est le midi-spend? Et en fait, c'est juste que le seul trick, c'est que, en fait, tu reconnais un bon vendeur, parce que la première fin de sa phrase, c'est une phrase interrogative, il te pose une question. Et c'est comme ça que Jordan Belfort dans Loup Wall Street, il qualifie à la fin si les mecs sont des professional sales ou pas. Et mais c'est pas grave, hein, si tu poses pas de questions, ça veut pas dire que tu vas être un mauvais sales, ça veut juste dire qu'il faut te former à avoir cet état d'esprit, quoi.
Moi, j'ai aussi du taf au niveau du sales parce que c'est compliqué.
Bah, on est français, hein.
C'est clair. Moi, je voulais savoir quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné.
Alors, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est un conseil qu'on m'a pas donné, en fait. C'est un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne. Bah, le premier conseil, c'est donc Paul Jarvis. Arrête de vouloir absolument, tu vois, créer un truc incroyable dès le début. Start small, quoi. Tu vois, genre commence par vendre un article ou commence par vendre un bout de code ou commence par faire ce que tu veux et grossis petit à petit. Parce que tu vois, l'entrepreneuriat, faut arrêter de croire, c'est un énorme saut de parachute. En fait, c'est juste l'entrepreneuriat, c'est surtout un escalier, quoi, avec des toutes petites marches à faire et essayer de faire 0 to 1. Ça, c'est hyper important. Et deuxième conseil, build an audience. Construis une audience, construis un canal, je sais pas, YouTube, podcast, ce que tu veux, mais documente tout ce que tu fais parce que ça te servira, en fait. Mm-hmm. C'est un actif médiatique.
Moi, je veux savoir, quelle personne me conseillerais-tu d'interviewer?
Une personne interviewée. Je pense que Ulysse Lubin serait pas mal. En fait, il fait un challenge, 100 challenges à travers le monde. C'est en fait, il se balade dans le monde entier avec des 100 défis où il va, tu vois, par exemple, là, actuellement, il fait de l'apnée. Il fait, je crois, il essaie de faire 15 mètres d'apnée ou 3 minutes d'apnée. Il avait fait la fourmi, il s'est fait piquer par une des fourmis avec la douleur la plus forte du monde. Enfin, il fait plein de trucs comme ça. Et avant, il a une start-up qu'il avait crashée. Il aime pas trop qu'on le dise, mais bon, ouais. Ça fait partie de son parcours aussi. Et maintenant, bah, il documente tout ça sur YouTube, etc. Il a plein de canaux de monétisation très intéressants. C'est un mec vraiment vraiment intéressant parce que lui son gros dada c'est les barrières mentales, vaincre ses barrières mentales. Donc je pense que c'est un gars à qui tu peux poser plein de questions et qui va beaucoup t'inspirer, ouais.
OK. Ben parfait, tu as répondu à toutes mes questions. Donc
merci Priscilla, c'était un plaisir. J'ai en fait on voit l'avantage des gens un peu introvertis, c'est que ils ont une oreille hyper attentive et du coup en podcast c'est cool, t'as Drew Riley, le mec qui fait Trends VC. Il avait écrit un tweet, il avait dit « Introverts make the best interviewers ». Ben, les introvertis font les meilleurs interviewers.
Oh, je sais pas, tu crois?
Ben, je sais pas, mais en tout cas, ben, ça se voit, c'est assez agréable, parce que en fait, j'ai l'impression d'avoir parlé 95% du temps. Donc les gens adorent ça en général, quand tu les oreilles attentives.
C'est toi qui parles toujours, j'avoue que c'est plus une interview.
Ouais, clairement.
Donc merci beaucoup.
Ben, merci à toi.